Mesdames, messieurs,
fratelli e sorelle,
chers frères et sœurs,
dans le vaste panorama de toutes les nations du monde,
de tout le continent,
jamais plus les uns contre les autres.
M'attendent à de belles découvertes et à d'enrichissantes rencontres.
Vox Mundi,
une émission de Radio Vatican présentée par
Marie Noriot.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Vox Mundi, le magazine hebdomadaire de Radio Vatican. Ce soir, une grande partie de cette émission est consacrée à la guerre en Ukraine. Nous reviendrons sur la réaction du Saint-Siège et des églises, notamment dans le monde orthodoxe. Et puis en deuxième partie d'émission, à l'occasion du Forum Méditerranée à Florence, auquel devait initialement se rendre le pape, focus sur l'histoire de la Mare Nostrum, berceau des civilisations. Manuela Figi, bonsoir.
Bonsoir Marie.
L'actualité de ces derniers jours, c'est donc bien sûr la guerre qui a éclaté au cœur de l'Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moscou dit vouloir ainsi défendre les républiques séparatistes de l'Est du pays, dont il avait reconnu l'indépendance quelques jours auparavant. La tension n'a cessé de croître ces dernières semaines, mais cette offensive russe pourtant annoncée a bel et bien surpris.
Et oui Marine, les premiers bombardements sur Kiev jeudi matin à 5h07 ont été un brutal réveil. Arrivant par le nord, l'est et le sud, les soldats russes ont pénétré sur le territoire. Désemparée, la population des villes s'abrite comme elle peut dans le métro. Des milliers de personnes ont fui pour se réfugier à la campagne. D'autres ont gagné la Pologne voisine. Des images de chaos et de désespoir qui ont stupéfié le monde entier.
Et l'invasion russe a suscité une avalanche de réactions évidemment au sein de la communauté internationale.
Absolument. En premier lieu, ici au Vatican où l'on suit de très près la situation. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a ainsi fait une déclaration aux médias du Vatican. Je vous en propose un extrait.
I tragici scenari che tutti temevamo stanno diventando purtroppo realtà.
Les scénarios tragiques que tout le monde craignait deviennent malheureusement réalité. Mais il est encore temps de faire preuve de bonne volonté. Il est encore possible de négocier. Il est encore possible d'exercer une sagesse qui empêche les intérêts partisans de prévaloir, qui protège les aspirations légitimes de chacun et épargne au monde la folie et les horreurs de la guerre.
Des propos qui résonnent avec ceux du pape lors de l'audience générale de mercredi, juste avant le début du conflit.
Et oui, quelques heures avant, en salle Paul VI, François avait appelé les responsables politiques concernés à un examen de conscience devant Dieu. Face à l'absurdité diabolique de la violence, a-t-il dit, le Seigneur propose deux armes, la prière et le jeûne. Ainsi donc, ce mercredi 2 mars, mercredi des cendres et début du carême, sera un jour de jeûne et de prière pour la paix. Le pape qui s'est rendu hier vendredi à l'ambassade de Russie près le Saint-Siège, à quelques mètres du Vatican pour y exprimer son inquiétude. C'est un geste assez exceptionnel, Marine, et signalons que le Saint-Père a téléphoné hier au chef de l'église gréco-catholique d'Ukraine, Mgr Chevchouk, actuellement réfugié dans un abri sous sa cathédrale à Kiev.
Nombreuses aussi ont été les réactions des églises. Alors commençons d'abord avec le monde orthodoxe.
Oui, parmi les plus notables, celle en Ukraine même du métropolite Onufre de l'église orthodoxe ukrainienne qui dépend du patriarcat de Moscou et qui a appelé Vladimir Poutine à cesser une guerre fratricide. Appel à la paix également du patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Kirill, et du patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée.
D'autres réactions, Manuela ?
Oui, par exemple, celle du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, le CCE, qui appelle la communauté internationale à défendre l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, disant craindre une guerre qui ne se propage à l'ensemble de l'Europe. Appel à la paix aussi des évêques de la Méditerranée, actuellement réunis à Florence.
Et au-delà des réactions, y a-t-il aussi des initiatives concrètes de solidarité ?
Bien sûr, solidarité spirituelle, matérielle, tout cela est accueilli avec reconnaissance par les Ukrainiens. C'est ce que nous confirme Pavlo Smitsniou, qui est le directeur du Centre d'études écuméniques à Lviv.
L'Ukraine aujourd'hui a beaucoup besoin de solidarité. Les hommes politiques vont aider comme ils peuvent, mais je pense au niveau de l'Église catholique, de cette communion dans une seule corps de Christ, et quand un membre souffre, les autres souffrent aussi en quelque sorte. Et je pense que cette solidarité en prière, solidarité pratique, je pense, sera très appréciée par les Ukrainiens.
Et cette solidarité, elle prend surtout forme en Pologne.
Oui, car la Pologne voit arriver les premiers réfugiés ukrainiens. Les deux pays voisins ont une longue histoire en commun, longue et très compliquée, mais l'accueil est sans réserve aujourd'hui. Les Ukrainiens sont nos frères, disent les Polonais. donner, c'est un peu de lumière au milieu des ténèbres, Marine.
Merci beaucoup, Manuela. Manuela à Fidji. Et maintenant, place à notre deuxième partie d'émission. Elle est préparée cette semaine par Delphine Allaire.
La voix du temps. C'est un territoire riche d'une histoire complexe et ancienne, tant sur le plan humain que physique, berceau de l'agriculture de nombreuses civilisations moyen-orientales, européennes, africaines et asiatiques. Ce n'est pas une mer, mais une succession de mers, d'îles et d'archipels, la Méditerranée. Voilà une mer qui se définit en usant du mot « terre », le milieu de la terre, une terre du milieu. La Mare Nostrum des Romains, la Grande Verte des Égyptiens, la Grande Mer, disait-on, au Levant ou chez les Phéniciens. 24 pays, 425 millions d'habitants aujourd'hui et 3 continents composent la Méditerranée. Depuis l'Antiquité, les hommes n'ont jamais réussi à unifier cet espace méditerranéen. Est-ce possible? Quelles sont les difficultés, les possibilités? Alain Blondy est historien du monde méditerranéen. Selon lui, la Méditerranée règne sans partage sur le monde jusqu'à la Renaissance.
L'apogée de la Méditerranée, je dirais, elle est antérieure au XVe siècle. La Méditerranée perd sa prééminence lorsqu'on découvre les océans. Avant de découvrir les océans, le monde européen vit sur lui-même. On ne sait même pas qu'il y a les Amériques, on ne sait pas qu'il y a non plus un Extrême-Orient, sauf grâce aux caravanes, et on vit autour de la Méditerranée et d'une autre Méditerranée nordique qui est la Baltique, si vous voulez. Donc on vit autour de mers closes. Et la Méditerranée, je dirais, est le début boucher à la fois de l'Orient, de l'Extrême-Orient et même de l'Afrique noire. C'est le lieu où toutes les richesses arrivent. Les puissances qui ont des navires, principalement les républiques italiennes d'Amalfi d'abord, de Pise ensuite, de Gênes et enfin de Venise, sont les maîtresses du monde économique. La Méditerranée restera, je dirais, l'exutoire des produits africains et surtout des produits orientaux.
La Mare Nostrum sous l'Empire romain était-elle toutefois thalassocrate, c'est-à-dire un état dont la puissance est fondée sur la domination d'une mer? Oui, pour le commerce et l'administration, non pour l'unité culturelle, répond Alain Blondy.
Ça va s'effondrer avant la fin du monde romain. Lorsque l'Empire romain est trop grand et qu'on va le partager en deux, on va créer un empire d'Orient et un empire d'Occident, et là, la Méditerranée va être coupée en deux par une ligne qui passe, disons, par l'Adriatique, hein, et qui va couper en deux la région d'Afrique que l'on appelle aujourd'hui la Libye. C'est simplement une unité administrative, c'est une unité économique extrêmement importante, mais qui va disparaître, je dirais, à partir du 3e-4e siècle. Je ne pense pas qu'il y ait de centre naturel de la Méditerranée. Pour nous, Européens, le centre naturel, culturel, c'est la Grèce. Mais pour nous, pour des gens qui sont en Afrique du Nord ou en Égypte, ça n'est absolument plus un centre culturel pour eux. Ça ne correspond plus à rien. Entre-temps, le monde arabe est passé par là, et surtout l'islamisation.
Nombreuses sont les fractures et crises qui blessent aujourd'hui la Méditerranée. Lointaine semble être l'image de l'ancien maire de Florence, pionnier de la diplomatie méditerranéenne, Giorgio Lapira, qui assimilait cette grande bleue à un grand lac de Tibériade. Telle est pourtant sa vocation en tant que cœur d'Occident et d'Orient. Le chemin va être long, selon Alain Blondy.
Si je me place à un autre point de vue, qui est celui donc du pape, la Méditerranée, c'est aujourd'hui, je veux dire, le centre du scandale de notre monde. Nous sommes des Européens qui surproduisons, qui surconsommons, qui surjetons d'ailleurs des choses. La Méditerranée n'est conçue que comme l'endroit où on va faire des croisières ou se tremper les pieds en été. Et lorsque vous avez des pauvres qui la traversent, on les regarde se noyer. C'est en cela que c'est dramatique. La Méditerranée, elle est la ligne de fracture. Elle est la frontière entre le monde civilisé et le monde non civilisé. Mais contrairement à ce que l'on pense, le monde non civilisé, il est en Occident.
C'est précisément cette mer Méditerranée, source et porteuse de tant de mythes, de civilisations et de rêves que le pape déplore aujourd'hui comme un grand cimetière par le drame de la migration. À l'échelle de la planète, la Méditerranée n'est qu'un confetti. C'est pourtant sur ses rives que les grandes pages de l'histoire universelle se sont écrites. Le Saint-Père souhaite en faire un axe phare de son pontificat et avant tout un lieu de résurrection.
Voilà, la rubrique était préparée cette semaine par Delphine Allaire. Elle est à retrouver bien sûr sur notre site internet www.vaticannews.va.